Washington, la voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour à tous, bonjour l'Afrique, ravi de vous retrouver sur les ondes de la Voix de l'Amérique. Le Monde Aujourd'hui, édition du mardi 23 septembre 2014, en direct de Washington. Au micro, Morgane Guériec et Anne Albertson. Bonjour Anne.
Bonjour Morgane, bonjour à tous.
Au sommaire ce matin, l'armée américaine et des pays arabes mènent leur premier raid en Syrie contre les djihadistes de l'État islamique.
Dans le même temps, un groupe lié à l'État islamique menace d'exécuter un Français si Paris n'arrête pas ses frappes en Irak.
Nous partirons dans les mines de diamants en République centrafricaine.
Qu'est-ce que vous faites là ?
On est en train de chercher le diamant.
Les mineurs ici travaillent sous le contrôle étroit des anti-balaka qui contrôlent généralement les voies d'accès.
L'armée ukrainienne se prépare à reculer ses canons de la ligne de front.
Et ici aux États-Unis, les leaders du monde se réunissent cette semaine à New York pour l'Assemblée générale des Nations Unies. Sans oublier nos pages sport et musique, mais avant le journal.
L'armée américaine et des pays arabes ont mené pour la première fois des raids contre des positions du groupe État islamique en Syrie. C'est ce qu'annonce le Pentagone. D'après les autorités américaines, l'opération est menée au moyen d'avions de chasse, de bombardiers et de missiles Tomahawk. Le Pentagone n'a pas dit où les frappes avaient lieu, mais selon le New York Times, Raqqa, centre du pouvoir de l'État islamique, a été visé, de même que la frontière très poreuse entre la Syrie et l'Irak. Washington n'a pas donné de précision sur ses partenaires arabes, mais une source anonyme au sein des autorités américaines a mentionné le Bahreïn, l'Arabie saoudite, la Jordanie et les Émirats arabes unis. Rappelons que les djihadistes de l'État islamique font l'objet de bombardements quotidiens par l'armée américaine, en Irak depuis le 8 août.
Sachez aussi qu'un groupe lié aux djihadistes de l'État islamique a revendiqué hier, dans une vidéo, l'enlèvement d'un Français en Algérie. Il a menacé de l'exécuter dans les 24 heures si la France n'arrêtait pas ses frappes contre l'État islamique en Irak. Félix Yepassi Zembrou.
Dans cette vidéo, et selon l'agence France-Presse, le groupe djihadiste algérien Jund al-Khilafa, les soldats du califat, qui a fait allégeance à l'État islamique, montre l'otage Hervé-Pierre Gourdel, demandant au président français de le sortir de cette situation. Il est assis par terre, entouré de deux hommes masqués et armés de Kalachnikov. L'otage dit qu'il est originaire de Nice et qu'il est guide de haute montagne. Il précise être arrivé samedi en Algérie et avoir été kidnappé dimanche soir. La revendication de cet enlèvement a eu lieu quelques heures après un appel de l'État islamique à tuer des citoyens, notamment américains et français, des pays appartenant à la coalition internationale mise en place pour combattre ce groupe djihadiste en Irak et en Syrie. La Kabylie, où le français a été enlevé, est une région montagneuse et boisée à une centaine de kilomètres à l'est d'Alger. Elle reste, rappelle l'agence France-Presse, un théâtre d'opérations de groupes armés islamistes de nombreuses années après la fin de la guerre civile qui avait opposé dans les années 90 l'armée à des groupes islamistes extrémistes.
République centrafricaine, la présidente Catherine Samba Panza estime que les élections ne pourront pas avoir lieu comme prévu en février prochain. Bernard Pongabé, président de la commission opération électorale au sein de l'autorité des élections en Centrafrique, explique pourquoi le report des élections est nécessaire.
Lorsqu'il y a encore des poches d'insécurité, lorsqu'il y a encore des hommes, des femmes qui se promènent avec des armes, je crois que, humainement parlant, vous, à notre place, personne ne s'hasarderait à aller dans une zone où ce n'est pas possible de le faire. Deuxièmement, il faut que les hommes et les femmes qui sont dans ces démembrements soient libres pour procéder à l'identification des éléments qui permettent d'élaborer la carte électorale. Je veux parler des sites d'enregistrement, je veux parler des centres de vote et plus tard, avec le fractionnement des listes électorales, les bureaux de vote. Ces hommes seront-ils libres d'aller le faire? Mais cela pose un autre problème aussi. Beaucoup de nos compatriotes ne sont pas à l'intérieur de notre pays. Beaucoup ont quitté leur résidence habituelle. Dans ces conditions précises, comment identifier, fixer les sites de recensement? Comment élaborer une carte électorale fiable? Nous avons le soutien de beaucoup de partenaires et c'est ce qui nous a permis jusque-là de fonctionner, de mettre en place les démembrements. Mais pour ces aspects, nous avons besoin encore de ces soutiens financiers qui, dans une certaine mesure, n'arrivent pas encore.
L'Organisation mondiale de la santé a réitéré son opposition aux restrictions de voyage vers les pays d'Afrique de l'Ouest, touchés par l'épidémie d'Ebola, qui reste une urgence de santé publique mondiale. Jean-Roger Billon.
D'après l'AFP, les experts du comité d'urgence de l'ONU ont averti que les annulations de vols et autres restrictions au voyage continuent d'isoler les pays touchés, provoquent des conséquences économiques néfastes et entravent les efforts de secours et d'assistance, ce qui accroît le risque de propagation internationale. Les experts ont par ailleurs estimé que les mesures exceptionnelles de quarantaine doivent être proportionnées et basées sur des faits. L'OMS demande une meilleure coordination entre les autorités des pays frappés par le virus et le secteur des transports. Le Bureau régional pour l'Afrique de l'OMS a précisé hier qu'il n'y a pas eu de nouveaux cas d'Ebola signalés au Nigeria depuis le 8 septembre et aucun au Sénégal depuis le premier et unique cas apparu le 29 août. Les épidémies dans les deux pays sont à peu près contenues. Mais la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone continuent de signaler de nouveaux cas de maladie. Le bilan pour l'Afrique de l'Ouest s'élève à au moins 5762 malades, dont plus de 2793 morts.
Sache aussi que les autorités sierra-léonaises se sont félicitées du succès de leur opération de confinement de la population pour lutter contre l'épidémie d'Ebola.
Au moins 13 Soudanais ont trouvé la mort lundi dans le naufrage de leur embarcation au nord de Khartoum. D'après le centre des médias soudanais, leur embarcation s'est retournée dans le Nil.
En Libye, un nouveau cabinet présenté par le Premier ministre Abdallah Al-Thani a obtenu au cours d'un vote hier soir la confiance de la Chambre des représentants. C'est ce qu'a fait savoir le porte-parole du Parlement cité par l'AFP. Selon des députés, tous les ministres du nouveau gouvernement sont des technocrates sans appartenance politique et méconnus sur la scène publique. Le nouveau cabinet compte 13 ministres, dont 3 vice-premiers ministres. Les députés avait en effet exigé un cabinet restreint après avoir rejeté un gouvernement de 18 ministres proposé par M. Al-Thani.
En Égypte, c'est aujourd'hui que s'ouvre le procès de 8 hommes arrêtés récemment pour être apparus dans la vidéo d'un mariage gay, une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux. Kadiatou Traoré nous en dit plus.
Les 8 détenus vont être jugés pour incitation à la débauche, rapporte l'AFP qui cite un responsable du parquet. 7 d'entre eux avaient été arrêtés le 6 septembre au Caire. Le 8e a été arrêté un peu plus tard à Alexandrie, dans le Nord. Les 8 hommes, identifiés grâce à la vidéo d'un mariage gay, selon la presse gouvernementale, avaient été placés en détention provisoire et le parquet avait ordonné un test médical pour les prévenus, selon l'agence de presse officielle MENA. Le 9 septembre, Human Rights Watch avait appelé l'Égypte à libérer les accusés, dénonçant ces tests médicaux imposés aux prévenus. Selon l'ONG de défense des droits de l'homme, les autorités égyptiennes ont à plusieurs reprises arrêté, torturé et détenu des hommes soupçonnés de conduite homosexuelle. La loi égyptienne n'interdit pas formellement l'homosexualité, mais plusieurs personnes ont été condamnées pour avoir pris part à des fêtes rassemblant des homosexuels.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Chine, pourvoyeuse d'instruments de torture en Afrique, c'est en tout cas ce qu'affirme Amnesty International. L'organisation internationale accuse notamment l'entreprise China Xinjiang Import-Export d'avoir des relations commerciales avec des dizaines de pays africains. Cette société vend notamment des poussettes, menottes à pouces et des matraques électriques, instruments pouvant être utilisés pour appliquer des décharges extrêmement douloureuses sur des zones corporelles telles que les parties génitales, l'aine, la gorge ou les oreilles. De telles matraques ont, selon Amnesty, été vues aux mains des policiers au Ghana, en Égypte, au Sénégal et à Madagascar.
L'armée ukrainienne se prépare à reculer ses canons de la ligne de front, c'est ce que rapporte l'AFP. Il s'agit d'une nouvelle étape dans la démilitarisation après l'instauration d'une trêve globalement respectée et avant d'aborder les difficiles négociations sur le statut des régions russophones de l'Est. L'arrêt des combats n'est certes pas total, 2 soldats ukrainiens ayant été tués ces dernières 24 heures. En début de soirée, des journalistes de l'AFP ont constaté des tirs à l'arme lourde qui ont laissé une dizaine d'impacts au sol, au nord de la grande ville de Donetsk, aux mains des séparatistes. djihadistes.
Les leaders du monde se réunissent cette semaine à New York à l'occasion de la session annuelle de l'Assemblée générale des Nations Unies. Terrorisme international et épidémie d'Ebola devraient être au cœur des discussions. Et la crise en Afrique, le conflit en Ukraine et les séquelles de la guerre de 50 jours dans la bande de Gaza seront également à l'ordre du jour.
Conflit au Proche-Orient, le président palestinien Mahmoud Abbas a annoncé hier à New York qu'il allait proposer devant les Nations Unies un nouveau calendrier de reprise du processus de paix avec Israël, interrompu depuis 5 mois. Je dis aujourd'hui au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, mettez fin à l'occupation, faites la paix, a déclaré M. Abbas lors d'un rare discours avant l'Assemblée générale annuelle de l'ONU, qui se tient donc cette semaine à New York. Vendredi, le président palestinien devrait s'exprimer devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Il entend faire adopter une résolution demandant la fin d'ici à 3 ans de l'occupation israélienne, mais un veto américain devrait tuer dans l'œuf cette initiative.
Ici, en pleine forêt de Bomandoro, à 25 km de Boda, dans le sud centrafricain, des villageois s'activent.
Je suis Guinandou, tu sais, c'était diamant là.
Nous sommes sur un chantier de diamants. Ce chantier s'appelle Lango Ousse.
Lango Ousse, en langue sango, cela veut dire obtenir le diamant en 2 jours. Non loin de Fred, Guillaume Ben.
Voilà, vous l'avez compris, c'était un extrait d'un reportage qui va suivre. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique, au micro Morgane Guiriec. On enchaîne sur la partie magazine de notre émission. Nous partons maintenant en République centrafricaine. L'embargo sur l'exportation du diamant est en vigueur depuis 2013 dans le cadre du processus Kimberley. Mais sur le terrain, l'exploitation artisanale du diamant continue, souvent sous le contrôle des groupes armés. Magassi Koura, notre envoyé spécial en RCA, nous amène dans la région diamantifère de Boda.
Ici, en pleine forêt de Bomandoro, à 25 km de Boda, dans le sud centrafricain, des villageois s'activent.
Je suis Guinandou, tu sais, c'était diamant là.
Nous sommes sur un chantier de diamants. Ce chantier s'appelle Lango Ousse.
Lango Ousse, en langue sango, cela veut dire obtenir le diamant en 2 jours. Non loin de Fred, Guillaume Benham, les pieds dans le ruisseau, tamise du gravier.
Qu'est-ce que vous faites là?
On est en train de chercher le diamant.
Là, vous n'avez rien trouvé encore?
Ouais, pas encore. On est en train de fuyer.
Les mineurs ici travaillent sous le contrôle étroit des anti-Balaka qui contrôlent généralement les voies d'accès. Ces miliciens ont chassé les musulmans qui géraient autrefois les mines dans cette région. Les yeux rouges, le torse nu et les muscles frêles, Guillaume ont continué inlassablement son travail.
C'est le curie, non? Parfois on trouve, parfois on ne trouve pas. On cherche.
Guillaume Benham explique que lorsqu'il trouve du diamant, il va le vendre dans la ville de Boda à celui qu'il appelle son patron. Avec l'imposition de l'embargo sur l'exportation du diamant centrafricain en 2013, les réseaux d'exportation illégale se sont multipliés. Et le manque à gagner pour le gouvernement est très important. Joseph Agbo est le ministre des Mines.
51% des recettes d'exportation sont aujourd'hui perdues. Donc au moins 20% de la contribution des exportations au budget de l'État sont perdues. Comment voulez-vous que l'État aujourd'hui puisse assurer les charges régulières, par exemple le paiement de salaire ou bien entretenir les hôpitaux, si cet argent-là lui manque?
Avec le déploiement des casques bleus, les autorités centrafricaines espèrent reprendre aux groupes armés le contrôle des nombreuses mines du pays. De Bangui, Bagassi Koura pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine, à Bangui, sur 101.7 FM.
Les leaders du monde se réunissent cette semaine à New York à l'occasion de la session annuelle de l'Assemblée générale des Nations Unies sur fond de terrorisme international et d'épidémie d'Ebola. On s'attend à ce que ces deux questions soient au centre des discussions. On fait le point avec Chérubin Dorcil.
Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a exhorté la communauté internationale à s'attaquer à la violence en Irak et en Syrie, deux pays qui sont devenus une véritable pépinière pour les groupes extrémistes, dont les militants de l'État islamique. Je me félicite du consensus international croissant sur la nécessité d'agir face à cette menace sérieuse à la paix et à la sécurité régionale et internationale, dit Ban Ki-moon. Vendredi dernier, le secrétaire d'État américain John Kerry a présidé une réunion ministérielle du Conseil de sécurité de l'ONU sur l'Irak. Il a remercié la dizaine de pays qui ont pris des engagements critiques pour aider à combattre l'État islamique.
ISIL poses a threat to all of us.
L'État islamique, dit M. Kerry, constitue une menace pour nous tous et nous nous sommes engagés à travailler en partenariat avec le nouveau gouvernement irakien et des pays à travers le monde pour vaincre le I. Au centre de cet effort, une réunion du Conseil de sécurité présidée mercredi par Barack Obama, le chef de l'exécutif américain. Les dirigeants présents à cette réunion discuteront des combattants terroristes étrangers, de l'arrêt du financement de ces extrémistes et des moyens de contrer leur violence. Pour le professeur Richard Gowen de New York University, la mission a pour but d'envoyer un important message politique. Le président Obama a mis sur pied une coalition de 40 pays pour combattre l'État islamique. Aux Nations Unies, il réaffirmera ce combat. En réalité, le gros du travail a déjà été fait, mais l'ONU est un bon cadre pour discuter de la nécessité de combattre les islamistes. Outre la menace de l'État islamique, l'épidémie d'Ebola qui continue de faire des ravages en Afrique de l'Ouest sera au centre des discussions. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a annoncé la semaine dernière une mission spéciale pour mobiliser les ressources humaines, matérielles, logistiques et financières dont ont besoin les pays affectés.
This is not just a health crisis.
Il ne s'agit pas seulement d'une crise dans le domaine de la santé. Elle a de graves conséquences humanitaires, économiques et sociales qui pourraient toucher les autres pays non affectés. Les crises en Afrique, le conflit en Ukraine et les séquelles de la guerre de 50 jours dans la bande de Gaza seront également à l'ordre du jour. Un sommet sur les changements climatiques a été par ailleurs organisé cette semaine par M. Ban. Le professeur Gowen estime que l'année a été particulièrement dure pour la communauté internationale à cause des désaccords sur la Syrie et l'Ukraine. Mais, prédit-il, les défis posés par l'État islamique et l'épidémie d'Ebola devraient aider à restaurer un peu l'unité au sein des États membres de l'ONU.
La semaine dernière, le 15 septembre, le monde célébrait la Journée internationale de la démocratie. L'occasion, d'après les Nations Unies, de dresser un état des lieux. Nous partons au Cameroun, où la question de la démocratie en tant que processus, mais aussi en tant qu'objectif, suscite bien des débats. Correspondance de Jules Eloubo.
Malgré l'avènement en 1990 des lois sur les libertés, les Camerounais ne s'accordent toujours pas sur le concept de démocratie. Si pour certains, le pays a enregistré des avancées notables, pour d'autres, la démocratie se fait encore un chemin difficile. Quelques Camerounais rencontrés dans les rues de Yaoundé.
La démocratie, moi j'y crois franchement au Cameroun.
On voit à la télévision ce que les Camerounais disent de leur démocratie.
La pratique de la démocratie au Cameroun n'a jamais existé. Si on parle d'une façon générale, il n'y a pas de démocratie en Afrique, que ce soit le Cameroun, que ce soit les pays environnants, que ce soit même au Cameroun, on essaye. On vit dans la corruption, on vit dans n'importe quoi. C'est pourquoi nous sommes toujours là.
Le système démocratique camerounais est appréciable,
mais il y a beaucoup de choses encore à changer.
Le but en blanc ne va pas être comme les démocraties européennes, mais moi je pense que c'est déjà mieux ailleurs.
La mise en place des institutions démocratiques ne semble pas avoir favorisé jusqu'ici la pratique de la démocratie. Des insuffisances ne manquent pas d'être régulièrement relevées par les acteurs. Serge Aimé Bikoy, sociologue.
On peut relever, entre autres, un ensemble de dysfonctionnements que nous avons constatés lors des échéances électorales. Vous savez qu'il y a eu des forces politiques, de même que des acteurs de la société civile qui ont dénoncé l'embrigadement des élections, notamment par un ensemble de corporations. Une référence faite ici, notamment à l'ECAM, le Conseil électoral et la direction générale. On a également relevé que le sentier électif n'est pas marqué du sceau d'une certaine transparence, d'une certaine fiabilité au niveau de l'organisation, au niveau même de la structuration du corps électoral. Parce qu'il y a toujours un ensemble de biais qui sont constatés, notamment en termes d'insuffisance.
La désaffection des populations vis-à-vis de la chose électorale ou politique est présentée par certains comme étant l'une des conséquences de cette situation. Parce que pour eux, la démocratie au Cameroun n'est plus une manière de gouvernement dans laquelle le peuple exerce sa souveraineté. Duplessis Kuenzop, président de la Dynamique mondiale des jeunes.
C'est une certaine classe qui prend les devants de l'administration, qui prend les devants de la sphère politique, alors qu'on ne les reconnaît pas à la base. Et c'est ce qui va donc poser ce problème donc de fracture et de mal-gouvernance. Parce que quand vous n'avez pas été désigné par un peuple, mais vous voulez qu'on rende compte à qui, puisqu'on les ignore.
De l'avis de certains observateurs, la démocratie ne saurait faire bon ménage avec la pauvreté. Les conditions de vie très difficiles des populations camerounaises seraient alors un frein au processus. Njoya Moussa, politologue.
La démocratie advient à partir du moment où il y a une classe moyenne. À partir de ce moment-là, ils s'intéressent maintenant aux problèmes de gouvernance, de liberté publique, d'autoréalisation, comme dit Maslow.
Yaoundé, Jules Lobo pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
Autre célébration importante au cours des derniers jours, la journée internationale de l'éthique dans les médias, dimanche dernier. Au Bénin, l'Observatoire de l'éthique et de la déontologie dans les médias a profité de ce temps fort pour organiser une rencontre avec les hommes des médias. En outre, 10 journaux ayant le mieux respecté le code de déontologie et de l'éthique ont été récompensés. De Cotonou, le reportage de Peggy Ludovic Tagba.
L'éthique dans les médias, célébrée le 21 septembre de chaque année, a été commémorée 48 heures plus tôt à Cotonou, à la Maison des médias, sous l'égide de l'ODEM, l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias. Une occasion pour l'Observatoire d'attirer l'attention des professionnels des médias béninois sur la nécessité pour eux d'inclure l'éthique dans leur pratique. Guy Constant Ehoumi, président de l'ODEM.
Nous voulons à travers cette journée-là inviter les professionnels des médias à avoir plus d'éthique dans le travail, c'est-à-dire avoir des relations saines avec les sources d'informations pour que les informations que l'on doit apporter au public puissent être aussi des informations vraies, justes, exactes et des informations saines.
Souvent prises en défaut de preuve lors des procédures en diffamation devant le tribunal, les journalistes béninois ont eu droit à un cours sur la preuve au sens de la loi, dispensé par le magistrat béninois Gilbert Togbonan.
Quand le journaliste écrit un article, les pièces qui attestent ce qu'il a écrit, ces pièces-là constituent la preuve de l'information. Et en cas de procédure, les pièces doivent être produites dans les 7 jours de réception de la citation par devant le parquet et doivent être déposées également à la victime, ce qu'on appelle l'exception de vérité. Et quand il y a un lien entre la preuve et les faits, autrement dit, quand l'information est justifiée par la preuve, il n'y a pas d'infraction.
Une dizaine de quotidiens béninois ont été distingués par l'ODEM à l'occasion de la célébration de cette journée. Guy Constant Ehoumi nous parle ici des critères qui ont présidé à la sélection.
Les critères, c'est deux articles du code. L'article 2 qui nous parle essentiellement de ce qu'il faut veiller à l'exactitude et à la véracité de l'information et s'assurer aussi de son origine. Et s'il y a des doutes, il faut s'abstenir de publier. Le deuxième article, c'est l'article 6 qui interdit le plagiat, la diffamation et les injures. Parce que ce sont les deux articles qui sont les plus violés dans la presse béninoise.
La représentante des organes honorés remerciera l'ODEM pour l'initiative avant d'insister sur la charge qui pèse désormais sur eux après cette distinction. Reine Azifon, directrice de publication du journal La Nation.
Dans notre métier, lorsqu'il n'y a pas un œil extérieur qui apprécie ce que nous faisons, nous allons rapidement dans l'erreur. Et c'est bon de savoir que nous-mêmes, nous avons mis en place une institution qui veille sur ce que nous faisons et qui chaque année donne un peu comme un verdict. Donc c'est une pression supplémentaire sur nous pour nous améliorer davantage.
Peggy Ludovic Dagba, Cotonou, pour La Voix de l'Amérique.
Et maintenant, place au sport, en notre compagnie ce matin, chez Urbain Dorcil. Salut Gabi.
Salut Morgane, heureux de vous retrouver.
En demi-finale de la Ligue des champions d'Afrique, malgré les victoires de l'ES Sétif et de l'AS Vita Club, rien n'est encore joué.
Après les rencontres de cette fin de semaine en série aller, ces équipes ont pris des options, mais les perdants gardent l'espoir. Philippe Troussier mène le club sportif Sfaxia.
On a réussi à marquer ce but, à ne pas encaisser d'autres buts. Et franchement, je suis un entraîneur comblé ce soir, même si je suis qu'à la mi-temps d'un processus. Mais tout est possible et on y croit jusqu'au bout.
Quant au TP Mazembe qui a perdu face à Sétif, il a eu une pente ardue à remonter, c'est vrai, mais tout n'est pas perdu.
Les Congolais vont mordre le doigt puisqu'ils avaient eu la chance de marquer en premier. Bien, les Algériens se sont mis en confiance et puis ont réalisé deux buts à un pour l'entente sportive de Sétif. Et il faut dire que ça va être très très difficile.
Observation très à propos de notre correspondant sportif Élisée Oukpatine à Boïkan au Bénin.
Parlons également de la Coupe de la Confédération 2014.
Le CO Sport d'Abidjan a fait l'essentiel à domicile face au Léopard de Dolisie, mais non sans effort. Le but libérateur est venu en seconde période, signé Kofi Christian Kwame dimanche. Match retour samedi entre CO Sport et Léopard de Dolisie. Les Égyptiens d'Al Ahly ont battu le Coton Sport du Cameroun par 1-0. Les Diables Rouges ont donc un pied en finale.
Alors Gabi, est-ce vrai que 18 postulants convoitent la direction technique de la sélection du Ghana ?
En tout cas, c'est ce qu'affirme la Fédération ghanéenne de football. 18 dossiers de candidature ont été déposés, dont celui du Serbe Milovan Rajevac, qui avait entraîné le Ghana de 2008 à 2010 avec une qualification historique, on se le rappelle, en quart de finale du Mondial 2010 en Afrique du Sud. Un seul technicien ghanéen a fait acte de candidature, l'ancien joueur du club anglais de Charlton, Kim Grant, rappelant que le Ghanéen Kwesi Appiah a été renvoyé de l'équipe nationale le 12 septembre.
Enfin, la CAF se prononce sur le dossier Albert Ebossé.
Oui, Morgane, l'attaquant camerounais de 24 ans est mort le 23 août dernier, tué par un morceau d'ardoise tranchante ramassé près du stade et lancé depuis les tribunes à la fin de match perdu à domicile 2-1 par la JS Kabylie face à l'USM Alger. Selon le ministre des Transports Mohamed Darmi, la Confédération africaine de football a suspendu Kabylie lundi de toute compétition continentale pendant 2 ans. La JSK est soumise par la Fédération algérienne, de son côté, à un huis clos pendant 8 mois et ses supporters sont interdits de stade durant la phase aller du championnat. Voilà pour les sports.
Et comme tous les jours, on termine cette émission en musique avec Roger Muntou. Salut Roger.
Bonjour Morgane. L'artiste jamaïcain Bago a commencé à faire de la musique quand il était encore à l'école primaire. Mais c'est seulement en 2000, lorsqu'il rencontre Elephant Man, que sa carrière musicale explose. Elephant Man demande à Bago de lui écrire une chanson. Ah ça, c'est pas chaque jour, Morgane, qu'une grande star vous demande de lui écrire une chanson. Quelle chance pour Bago. Ce matin, on l'écoute dans I Don't Worry.
Bogle et Elephant Man sont devenus amis, mais aussi collègues, car Bogle a passé beaucoup de temps à écrire les chansons d'Elephant Man.
Oui, mais après 5 ans, Bogle décide qu'il veut aller poursuivre sa propre carrière. C'est en ce moment-là qu'il arrête de côtoyer Elephant Man, mais je dois dire quand même, Morgane, qu'ils sont restés des bons amis.
Bogle, I Don't Worry. Merci Roger.
De rien Morgane, un coucou à tous nos auditeurs de Mbujimayi dans la République démocratique du Congo.
Roger Muntou que vous retrouvez tous les soirs à 20h temps universel dans le RM Show. Me serious with my thing, me nah play. For the work when me had them can't pay. No matter how life glory, it fix in a hurry. Only way me I go worry if me can't pray. Remember for every action, there is a reaction. Negative or positive, choose you have an option. No can be a real man, but I can. Cause I judge I may rely on. Hey, hey. And don't worry about them pagans. Me dance with them show me raven. I don't worry about the roaches, cause we don't have my bacon. I don't worry about life, but me worry about death. Me no worry about what I'm not ready, but me worry about I wanna go on, yeah. I don't worry about them pagans, me dance with them show me raven. I don't worry about the roaches, cause we don't have my bacon. Ainsi s'achève Le Monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Anne Albertson à la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. C'était Morgane Guerrier au micro et je vous souhaite une excellente journée.